sur une transformation extrême. Donc, si vous avez vos Bibles, on va regarder avec ça. Donc, qu'est-ce que ça fait le salut? Première, c'est une transformation extrême. 2 Corinthiens 5, verset 17, qui nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ce temps de louange, ce temps d'adoration, ce temps, Seigneur, de famille. Père, je te prie de venir ce matin, de venir nous parler. Seigneur, c'est bon quand tu nous parles. Seigneur, c'est riche quand tu nous parles. Seigneur, on a besoin de toi. Saint-Esprit, viens ce matin. Seigneur, visitez notre cœur. Viens visiter, Seigneur, où nous en sommes avec toi. Seigneur, nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin de comprendre également. Je te prie, Seigneur, que ta parole ce matin soit riche dans nos vies. Seigneur, bénis ton peuple et Seigneur, bénis ton serviteur ce matin dans le beau nom de Jésus. Amen et amen. Donc, vous savez, si on lit ce texte, c'est la nouvelle naissance et la nouvelle naissance, on a toujours dit, je veux toujours dire, c'est un changement de royaume. Mais avant d'arriver là, j'aimerais parler ce matin de Saul de Tarse, l'apôtre Paul. Il savait de quoi qu'il parlait quand il a écrit ce verset. Quand il a écrit cela, il se rappelle de sa conversion. Lisons ensemble, acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut en ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans toute la contrée de la Judée et de la Samarie. Donc, Saul de Tarse, c'était un homme engagé. C'était un pharisien engagé. Cet homme a étudié au pied des plus grands, Gamaliel, un maître de la parole, de la loi, un grand homme de lettres, un pharisien instruit. Et Saul de Tarse a étudié toute la loi, toute la parole à travers cet homme. Il était un pharisien engagé. Saul de Tarse ne vivait que pour le jour d'arriver dans le Sanhédrin, parce que le Sanhédrin régissait la vie religieuse de l'époque. Et le Sanhédrin également siégeait dans une salle de justice. Et Saul de Tarse, quand il a fait ses études, il est devenu un juriste réputé, un homme de loi, un homme de lettres, un homme droit, comme un avocat, je pourrais dire. C'est un homme vraiment bien instruit dans la loi. Et son but, c'est de faire partie du Sanhédrin. Mais comme pharisien, il détestait la secte des Nazaréens, donc les chrétiens, les disciples de Jésus, je pourrais dire, et au point qu'il voulait les éliminer. Et il a même approuvé le premier meurtre d'Étienne dans le Nouveau Testament. Et Saul de Tarse a beaucoup de haine contre les disciples de Jésus. Il persécute les chrétiens. Pour lui, écoutez bien, les disciples de Jésus, c'est des fanatiques, des fous, d'un faux messie. Jésus de Nazareth est mort. Et pour Saul de Tarse, écoutez bien, dans la pensée que comment que Paul comprenait, et c'est important que je vais vous le dire, parce que quand vous allez lire Paul, peut-être vous allez avoir une image différente. Saul se disait en lui-même, « Crois-tu qu'un vulgaire crucifié est le Messie promis? Selon notre loi, il dit, quiconque est pendu au bois est maudit. Et en plus, il est ressuscité d'entre les morts. Dieu prend-il un faux prophète maudit pour faire de lui le Messie? » Pour Saul, c'est impensable, c'est incroyable, ça ne va pas dans sa culture, dans sa mentalité. C'est impossible pour lui. Les disciples de Jésus, c'est une secte à éliminer. Et en plus, Saul de Tarse entend dire que la secte des Nazaréens, les disciples de Jésus-Christ, qui prêchaient Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le seul qui pouvait pardonner le péché et le seul qui pouvait donner la vie éternelle. Donc, pour Saul de Tarse, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien dans sa philosophie qui peut dire que c'est vrai, ces choses-là. Saul de Tarse, dans sa tête, c'est d'éliminer le christianisme. C'est une secte, c'est pernicieux. Et Saul de Tarse, dans sa direction et dans sa pensée, je vais éliminer ces gens-là. Je vais les éliminer avant qu'elles détruisent notre loi juive et nos traditions. Et vous connaissez l'histoire de Saul de Tarse, qui est très intéressante, qui va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Et si vous lisez Acte 9, verset 1 au verset 9, ça nous dit que sur le récit du chemin de Damas, Saul de Tarse va faire toute une rencontre. Il a entendu une voix qui vient du ciel qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? » Et Saul va dire « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui répondit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Donc, Paul, il est tombé en bas de son cheval, on peut comprendre. Et Paul, maintenant, il y a toute une révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Saul, maintenant, a une révélation de Jésus-Christ. Et par la rencontre avec Jésus, ça a apporté un changement radical dans sa vie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va changer cet homme-là des pieds à la tête sur la mort de Christ, sur la résurrection de Christ et de ceux qui le suivent. Écoutez bien, maintenant, Saul de Tarse est convaincu que Jésus-Christ est vivant. Une touche de Dieu a changé sa vie. Et je crois personnellement qu'une vraie touche de Dieu change la vie d'une personne. Et ce n'est pas normal que quelqu'un qui a été touché par Dieu n'ait pas de changement. Dites-moi un grand amen. Il doit y avoir du changement. C'est impossible s'il n'y a pas de changement. Une touche de Dieu change la vie d'une personne. Paul passe des ténèbres à son amiral lumière. Il va naître d'en haut, il devient une nouvelle créature, il va changer de royaume, sa vieille vie maintenant prend fin, il se dirige vers une nouvelle vie. Et c'est pour ça qu'il nous écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes et toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia! Donc, il était adopté, il était aimé, un persécuteur chrétien, pas un persécuteur chrétien, mais un persécuteur qui maintenant devient chrétien, qui devient une nouvelle créature, adoptée par la grâce de Dieu. Sa vie a complètement changé. Et savez-vous, qu'est-ce que Paul va faire? La première chose, qu'est-ce qui est étonnant? Paul, comme c'est un docteur de la loi, un homme de lettres, donc Paul a commencé à aller dans les synagogues. Et Paul a commencé à prêcher sur Jésus-Christ mort et ressuscité d'entre les morts. Et les gens qui ont connu Paul, ils disaient, « Mais qu'est-ce qui est arrivé à Paul? » Il est sûrement tombé sur la tête. Les gens ne reconnaissaient pas la vie de l'apôtre Paul. Paul était complètement transformé par le toucher de la grâce de Dieu. Une conversion, on la voit. On la voit. Ça se sent quelqu'un qui est né de nouveau. Cet homme disait qu'il avait encore les mains pleines de sang. Je vous le dis, Jésus est vivant. Je le sais, je l'ai rencontré sur le chemin de Damas. Je le sais, j'ai entendu sa voix. Je le persécutais. Mais il m'a dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Paul a entendu quelque chose, que sa vie a été transformée. Les gens n'en revenaient pas de sa transformation. Alléluia! Un persécuteur devenu à son tour persécuté. Acte 24, verset 5. C'est intéressant. Nous avons trouvé... Cet homme, parle de Paul, qui est une peste, pas tellement aimé, une peste, qui existe des divisions parmi tous les Juifs du monde qui est le chef de la secte des Nazariens. Comprenez-vous? Autant que Paul persécutait la secte des Nazariens, maintenant c'est Paul qui est le chef, qui se fait accuser, qui est le chef. Toute une transformation, laissez-moi vous dire. Un homme, Paul va devenir un homme de conviction à travers la conversion. Et je crois de tout cœur à cette parole, Paul va dire, voyez-vous, on va voir la transformation de Paul. Galates chapitre 1, verset 10. Et maintenant, Paul connaît la conversion. Et maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On voit un homme ici qui veut plaire au Seigneur. Cet homme a été touché. Paul n'était pas appelé à plaire à l'homme, mais à plaire à celui qui l'envoie. Alléluia! Il désire faire connaître son Sauveur. C'est le premier but. Il ne faut jamais perdre de vue que l'Église de Jésus-Christ est de faire connaître notre Sauveur. C'est le but, c'est pour ça que vous êtes là, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui vous a témoigné. Sinon, on ne sera pas là, on prêcherait dans le vide un matin. Paul dit, « Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux anges, je ne serais pas serviteur de Christ. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné un enseignement dans une église. C'est presque un serviteur. Je prends 10 minutes de votre temps pour ramener tout ça où je vais aller plus loin. Romains chapitre 1, verset 1, ça nous dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. » J'aimerais dire, à travers ce verset, que le mot « serviteur », si on va dans le grec, c'est le mot « doulos ». Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de lui. Dans l'époque de Paul, dans l'époque romaine de Paul, avec Jésus à cette époque-là, donc l'esclavage, elle était réelle. Et Paul fait allusion à l'esclavage des gens qui sont soumis au maître qui les achetait. Dans la culture du premier siècle, l'esclavage illustrait parfaitement la relation entre croyant et Jésus-Christ, une relation de soumission sans faille au maître. Cela décrit un chrétien qui est né de nouveau, qui est placé sous l'autorité, sous la soumission de Jésus-Christ. Je vais aller plus loin. Vous savez, une personne qui était esclave, cela entraînait qu'il avait la perte de l'autonomie sur sa vie. C'est plus lui qui dirigeait pour accepter la volonté du maître. Donc, il ne pouvait plus diriger sa vie. Il est esclave, enchaîné comme un maître pour le maître. Donc, il était obligé de se soumettre à la volonté de Dieu. Et dans le sens fondamental, dans le mot « maître », ça veut dire « kurios ».« Kurios » veut dire « maître et propriétaire ». Lorsque nous chantons, nous proclamons que Jésus-Christ est roi, nous affirmons qu'il est la suprématie est absolue. Celui qui désigne à lui la gloire lui appartient, la domination lui appartient. Mais aussi notre propre vie. Écoutez bien, nous nous soumettons à lui, à Kurios, en tant que maître, car nous sommes esclaves, doulos du maître. Alors, il m'a racheté de la colère. Donc, il a payé ma dot pour le péché. Il m'a adopté. Cela, ça veut dire que j'ai un nouveau maître qui m'a racheté de l'esclavage du péché. Romains chapitre 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 22. Regardez bien qu'est-ce que ça nous dit. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est esclave de Christ. Écoutez bien, le Seigneur nous a affranchis du péché. Tout le monde est d'accord? Je suis libre du péché. Je ne suis plus esclave du péché. J'ai été racheté du péché pour vivre avec une personne que je dois être soumis au doulos, au kurios. Donc, je deviens l'esclave, le doulos du kurios. Est-ce que ça vous manque quand je dis les deux mots, doulos, kurios? Donc, c'est-à-dire que quand j'accepte Jésus, j'ai un nouveau maître. Il s'appelle kurios. Moi, je suis l'esclave, le doulos du kurios. C'est plus simple. Donc, maintenant, je lui dois soumission. À qui? Au kurios, au maître. Il a payé ma dette. Je lui appartiens. Il m'a adopté. Je suis sous sa domination. Le maître, le kurios, est le propriétaire de ma vie. Donc, quand je confesse Jésus-Christ comme Seigneur, je reconnais que je suis son doulos. Et c'est lui, le kyrios. Et donc, le maître, le Seigneur, c'est une bonne nouvelle à vous dire, il a autorité sur le doulos. Soit votre vie, soit la mienne. Le jour qu'on a accepté Jésus, hein, on est « Oh Seigneur, viens dans ma vie, je t'accepte, wow, c'est pas trop qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui arrive, hein, ça dérange, il y a une nouvelle naissance, et tu veux vivre avec ton Sauveur. » Mais également, tu dois apprendre avec ton Sauveur, qui est ton kyrios, tu dois être soumis à lui. Tu es son doulos, tu es racheté. Tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi que Paul disait dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Donc, Paul a un seul désir, c'est d'être un serviteur qui porte du fruit pour le royaume de Dieu. Il est esclave du maître, prêt à tout pour le servir. Et c'est pourquoi que Jésus nous dit dans Luc chapitre 14, verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix, il ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Comprenez-vous? Tu es l'esclave. Tu es le doulas. Et le maître te dit, « Écoute, doulas, faut que tu me suives, faut t'apprendre à être obéissant avec moi. » Paul signifiait qu'il était prêt à vivre une vie de renoncement, de soumission comme un esclave qui est soumis à son maître. C'est pourquoi que Jésus, et si tu veux me suivre, il va falloir qu'il t'apprenne à porter ta croix. Porter sa croix, c'est quoi? C'est de faire passer tes désirs personnels en dernier pour suivre sa volonté à lui. Prêt à renoncer et abandonner à lui et de faire sa volonté à lui. Même les choses que tu aimes le plus, si le Seigneur t'a dit lâche, mais lâche. Porter sa croix, c'est faire qu'est-ce que lui te demande. Il ne va pas faire qu'est-ce que toi, tu as envie de faire. Puis je vais aller un petit peu plus loin. Ça demande de l'abandon. Ça demande des sacrifices. De marcher avec lui dans l'humilité, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Je diminue afin que lui puisse croître, n'est-ce pas? Et ma priorité, comme votre priorité, c'est d'être obéissant avec lui. Paul veut plaire au maître. Paul dit, je veux pas plaire à l'homme, je veux plaire au maître. Il dit, si je veux plaire à l'homme, je ne serai pas un serviteur du maître. Pourquoi? Parce que je ne serai pas sincère, je ne serai pas droit avec mon Dieu. Je ne veux pas marcher dans le compromis. Donc, je veux marcher dans l'obéissance. Mais je ne suis plus esclave du monde, je suis esclave du maître. Sa volonté devient ma volonté. Cet homme de Dieu veut faire la volonté du maître. Paul ne veut pas marcher dans la mentalité de sa culture d'autrefois. Il veut vivre maintenant avec son nouveau maître, dans sa nouvelle culture, dans sa nouvelle pensée. Paul a tranché et Paul a pris position. Donc, Paul ne veut pas marcher dans la chair. Il ne veut pas marcher dans le compromis, il veut marcher dans la vérité. Lisons Romains chapitre 8, verset 11 au verset 14. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Écoutez bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Un de nos gros problèmes, puis je me mets avec vous là, ce matin, c'est pas facile d'abandonner la chair. C'est pas facile d'abandonner notre vieille vie. On aime nos vieilles habitudes. Puis on est confortable dans nos vieilles habitudes. Et c'est difficile d'adopter des nouvelles attitudes. Dites-moi un gros amen, j'ai rien entendu. Et c'est de là que viennent nos sources de problèmes. Le Saint-Esprit veut nous mettre au diapason avec la parole de Dieu. Il faut accepter le changement que le Saint-Esprit veut nous faire emporter par la parole de Dieu. Donc, on doit démontrer, vous devons démontrer de nouvelles attitudes. Et c'est pas facile. L'apôtre Paul a donné une parole sévère à l'église de Corinthe. Je dis souvent à ceux qui arrivent dans le ministère, bienvenue dans l'église de Corinthe, bienvenue dans l'église. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants de Dieu. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez même pas, même à présent. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Un des problèmes majeurs de l'Église de Corinthe, étaient les membres, ils voulaient bénéficier de la bénédiction de Dieu, comme chacun de nous, n'est-ce pas? Mais ils refusaient, en fin de compte, l'Église de Corinthe, de se séparer des mauvaises voies du monde. J'ai sorti une citation cette semaine de l'évangéliste et de l'éditeur D.L. Moody qui a même paru sur Facebook cette semaine, et je cite, « Les gens veulent profiter du paradis après leur mort, mais ne veulent pas l'Esprit céleste pendant leur vie. » Elle est bonne, hein? Je la répète, elle est trop bonne. Donc, les gens veulent profiter du paradis après leur mort, mais ils ne veulent pas l'Esprit céleste pendant leur vie. Donc, ça demande, si ça démontre que la chair, c'est dur à briser. Et c'est pourquoi que l'Église de Corinthe, qui avait beaucoup de résistance face à la chair, il y avait des brisures, des chicanes, des divisions, de la jalousie, des manques d'unité, de manque de maturité, de péché. On en retrouve ça dans nos églises. Ah, amen, amen, amen. Non, 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 regarde des noms un matin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le cœur de l'homme a besoin de changement? En tout cas, si vous, non, moi, oui, en tout cas. Et ça ne peut pas fonctionner dans ces directions-là. Nous avons, dites avec moi, changé de royaume. Regarde à ton frère, ta soeur, j'ai changé de royaume. Je dois me comporter comme un enfant de Dieu. Il doit y avoir des coupures qui se font dans nos vies. Il y a des prises de position qui se prennent dans nos vies. Tous les problèmes des Corinthes étaient que le monde n'était pas sorti de leur vie. Comme dans le peuple hébreu, quand il est sorti de l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait un veau d'or. Ils sont plus en Égypte, ils sont dans le désert. C'est le signe que l'Égypte n'est pas sortie de leur vie encore. Donc, l'Égypte est sortie. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte, non. Les Corinthiens, écoutez bien, vivaient encore dans la philosophie du monde, dans des faux raisonnements, dans des fausses pensées philosophiques humanistes entremêlées avec le christianisme. Il y a beaucoup de zones grises, des philosophies trompeuses. La chair résiste au changement. Corinthiens, ils vivaient sans vouloir se soumettre à celui qui dirige la vraie vie. Grandir dans la maturité chrétienne demande que vous y participez. Allô? On est tous sauvés par grâce. On est tous d'accord avec ça. Votre salut est personnel. Tout le monde va dire ça. Mais on a aussi des pas à faire. Nous devons participer avec le Saint-Esprit pour adhérer au changement. Le psaume 119, verset 37, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Psaume 119, verset 5, « Mon âme est attachée à la poussière, mais rends-moi la vie selon ta parole. » Notre esprit, notre âme doit dire, « Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la foi de vivre dans tes voies. Déracine de moi ma vieille façon de vivre. » Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, ça me parle beaucoup, là. Je suis appelé à vivre en nouveauté de vie, car je veux que la parole soit la source de ma vie, qu'elle devienne source de joie, de bonheur dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends. Mais pour cela, je dois lire la parole de Dieu. Je dois recevoir la révélation de la parole de Dieu. La révélation, je veux en parler, vient changer notre vie. Paul a eu plein de révélations dans sa vie. Et Paul a participé avec le Saint-Esprit au changement de sa vie. L'apôtre Paul marchait par la révélation de la parole de Dieu. La lettre, elle dit, mais c'est l'Esprit en arrière de la lettre qui vient nous vivifier. C'est à travers la lettre où l'Esprit de Dieu vient nous révéler. La lettre, elle est bonne, elle est excellente. Mais si on a la révélation, c'est encore mieux. Galates, chapitre 1, verset 11, 13, verset 17 et 18. Je vous déclare, frère, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par la révélation de Christ. Vous savez en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comme je persécutais, outrage et ravageais l'Église de Dieu. Là, Paul, après ça, au verset qui va continuer, il donne qui était avant. Maintenant, verset 17, « Et je montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie et je reviens encore à Damas. » 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, Céphas, et je demeure 15 jours avec lui. Écoutez bien, Paul nous dit comment il était avant sa conversion. 14 et 16, vous lirez. Mais Paul est en train de dire, « Dis l'Évangile que je vous prêche, elle ne vient pas de moi. Je ne l'ai reçu ni d'un homme, ni de d'autres personnes. Je l'ai reçu directement par révélation, par la part du Saint-Esprit. La révélation, c'est quelque chose qui vient dévoiler quelque chose de caché. Pour comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Écoutez bien, combien de fois tu peux prendre ta Bible, puis tu vas lire, puis tu comprends absolument rien? En tout cas, moi, ça m'arrive, là. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu me dise, « Hey, Serge, c'est ça que ça veut dire. » Mais maintenant, ouf, tout va s'éclairer. Est-ce qu'on a besoin de cela? Combien de fois que je dis à Manon, ou encore à Marie, « Je pense que je viens de comprendre qu'est-ce que je viens de lire. » Enfin, tu sais, je viens de comprendre. Tu sais, il y a des choses, il y a longtemps, je n'ai pas compris, là, mais je découvre encore. Parce que la Bible, elle sera toujours rafraîchissante. Elle sera toujours révélation. Et tu auras toujours à apprendre. Relis, tu auras toujours des nouvelles choses qui vont venir. Qu'est-ce que j'ai prêché pour 20 ans? Aujourd'hui, je regarde mes premiers messages, je dis, « Colin, tu faisais deux côtés. » Il y a de l'évolution, il y a du changement, il y a du travail. La révélation, le psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Et Paul, quand il écrit Galates, Paul devait aller à Jérusalem pour rencontrer les apôtres. Mais au lieu de ça, Paul va se diriger en Galatie. Et pendant 3 ans, l'apôtre Paul a vécu dans le désert d'Arabie. Il était complètement coupé de son ancienne façon de vivre, il regarde maintenant à son nouveau royaume. Il laisse en arrière de lui son ancienne vie. Paul était dans la solitude, dans le calme et loin des pensées d'autrefois. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, quand tu vas rencontrer le Seigneur, ferme la porte de ta chambre. Prends un temps avec lui. Commence, oui, à prier, mais tu as besoin de lire aussi. Nous, on a une méthode chez nous, on a la Bible en 1 an, qu'on lit les portions plus les études de la parole de Dieu. Donc, dans 1 an, on passe régulièrement notre Bible. Prenez la façon que vous voulez, mais lisez-la. Et dans cette période, Paul a eu la révélation, le Saint-Esprit va rappeler à l'apôtre Paul l'enseignement de Jésus-Christ. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra mon nom, vous enseignera. Quoi ici? Qu'est-ce qui est marqué? Toutes choses. Je ne vais pas dire à moitié à peu près. Non. Toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait comprendre les Écritures. La parole révélée, il nous fait connaître la volonté du Père à travers Jésus-Christ. La vraie révélation, elle apporte l'élimination, la véritable évangile. Alléluia! Le Saint-Esprit, vous savez, des fois on a des discussions, les frères. Hein? « Oh, moi, j'ai pas telle conviction. » Laisse-moi te dire, tu ne peux pas jouer avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a toujours été là. Et c'est lui qui vient mettre la vérité dans l'Évangile. Et tu ne peux pas dire, ça me plaît, puis ça ne me plaît pas. Ça ne marche pas. Dieu a toujours été là. Il a toujours été présent. Tu ne peux pas mettre l'Évangile à ta sauce. Alléluia, tu mets l'Évangile selon le cœur de Dieu. La vérité reste la vérité. Il est là depuis le début, depuis tout le temps. Le Saint-Esprit ne changera pas pour nous faire plaisir. La vraie vérité emporte en nous la paix, emporte en nous la joie, parce qu'on comprend les choses qui étaient cachées. La vraie vérité emporte des changements intérieurs et ça va paraître de l'extérieur. Les convictions deviennent vraies. On se soumet à l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 et 12. « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu qu'il nous a données par grâce. L'homme qui n'a pas le Saint-Esprit, quand t'entends le monde, dans le monde, « Oh, c'est spirituel! » Hey, ferme-moi pas, hein? T'as pas le Saint-Esprit, tu peux pas être spirituel. On va être clair, là, ça prend la nouvelle naissance. Donc, mais toi qui es né de nouveau, maintenant tu peux être éduqué dans le royaume de Dieu. T'as pas reçu l'Esprit du monde, t'as reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui t'éduque sur le royaume de Dieu. Sans l'intervention du Saint-Esprit, donc on sera pas capable d'avancer, de connaître la vérité. Ça se passe avec le Saint-Esprit, qui vient nous dévoiler les Écritures. Le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. C'est lui qui lève le voile, qui nous fait voir la vérité. C'est pourquoi, lisons ensemble 2 Corinthiens 3, 16, 18, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, qu'est-ce qui est écrit? Le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Une fois converti au salut par grâce, ce voile qui nous voilait la vérité de Christ, une fois, c'était enlevé. Donc, tu as été libéré, je répète, du péché. La vraie liberté... On entend ça souvent dans les églises, dans les conventions. « Oh, le Seigneur, là, c'est là qu'est la liberté! » Puis là, tu vois tout le monde, les drapeaux, les « Ouais, 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 ouais! » « Oh, man, on a du fun! On va le party ce soir! » Écoutez bien, replaçons le texte à sa place. La vraie liberté, c'est de suivre la parole de Dieu qui nous amène à la vraie liberté, qui nous apprend à dire « Non, merci au péché! » Non aux mauvaises habitudes, non aux mauvais comportements. La grâce nous éloigne de l'impiété et nous fait vivre dans la justice de Dieu. Tu veux être libre? Vis dans l'amour de Dieu. Il y a de la joie dans l'amour de Dieu. Tu peux lever ton drapeau, il n'y a pas de problème. Mais la vraie liberté, c'est être libéré de ton péché et de vivre dans la liberté de la grâce de Dieu qui va comme les inconduire de toutes sortes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et par révélation, nous grandissons dans la vérité. Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. » Qu'est-ce qu'on entend vient? La parole de Dieu. Écoutez, plus que la révélation vient dans nos vies, plus qu'on va plonger dans l'amour, plus qu'on va plonger dans la grâce, plus qu'on sera transformé d'une gloire à une autre gloire, plus tu marcheras de progrès en progrès, de victoire en victoire. La parole sera ta force, tu marcheras à l'image du Créateur. La parole, elle transforme pour que nous soyons transformés à la même image de Jésus-Christ. Combien on pourrait dire avec moi ce matin, « Ouch, j'ai pas fini d'être transformé. Ouch, j'ai pas fini d'être transformé. » Une transformation nous amène à la stature parfaite de Christ. Je diminue afin qu'il puisse grandir. Et c'est là que nous verrons les fruits de l'Esprit. La puissance du Saint-Esprit, elle vient briser la résistance de la chair. Dis avec moi, elle vient briser la résistance de la chair. Écoutez bien, si le Saint-Esprit vous a parlé, soit par l'écoute, soit que Jésus t'a parlé par la parole de Dieu ou par autre moyen, le Saint-Esprit ne regarde pas à l'apparence, mais le Saint-Esprit regarde au cœur. Lisons Jacques chapitre 1, versets 22 et 25. Regardez bien ce que ça nous dit. Lisez-le pour moi. On va tous le lire. On continue. Dernier verset. verset 25, je vous le lis, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, il n'est pas suffisant de lire la Bible, c'est déjà beaucoup, mais on doit aussi y répondre par l'obéissance. L'ordre est clair. Il dit, mets en pratique la parole de Dieu. Ne te borne pas à l'écouter. C'est un impératif ici. C'est un ordre. Mets en pratique. Nous devons devenir ou continuer à devenir des gens qui pratiquent. Alléluia. Et non juste des auditeurs, des consommateurs. On peut écouter bien des sermons, écouter bien des films chrétiens. On peut venir bien à l'église. Mais si la transformation n'est pas là entre vous, on a un problème. On parle de maturité ce matin. Soit qu'on va se borner, comme Job nous dit, soit qu'on résiste au changement, ou peut-être que tu ne veux pas changer et que tu es confortable dans tes idées. Suivre le Seigneur, ça demande de l'engagement, ça demande de la transformation, ça demande de l'obéissance à la parole de Dieu. Si on n'obéit pas, on est quand même comme la parole, on est semblable à un homme qui se regarde dans le miroir, qui fait ses défauts, qu'on oublie. Mais regarder la parole de Dieu implique une obligation de plonger les regards dans la loi parfaite de Dieu. La clé et la force de la croissance et de la croissance spirituelle, je pourrais dire, c'est de plonger un regard attentif et soutenu à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. Même les apôtres du Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Écoutez bien, le Saint-Esprit nous parle par révélation. Jacques, il dit, plongez vos regards dans la loi parfaite. Ça signifie en réalité, littéralement, s'abaisser de manière à regarder plus près. Quand tu lis ta Bible, tu as tes lunettes, là? Ah, c'est ça que ça veut dire. Tu regardes plus près. Quand tu regardes de plus près la parole de Dieu, on s'humilie devant le Seigneur. On dit, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde si je marche une mauvaise voie. Instruis-moi pour marcher dans la sainteté et dans la transformation. Paul nous cite, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Laissez Dieu travailler notre cœur. Alléluia. Il faut que Dieu ait le respect dans notre vie. Paul a été cet homme qui a été transformé. Paul aimait la parole, marchait avec la révélation. Écoutez bien, un autre point important, le changement est opéré par le Saint-Esprit, c'est de nous mettre au diapason avec la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins à ajouter avec cela. Que nous nous soumettons à la directive. Vous savez, plus que nous allons marcher avec l'Esprit de Dieu, pas être dirigé, mais si je parle marcher, lire la parole, être un enfant de Dieu, plus que nous allons apprendre à ne pas se bagarrer entre nous, à devenir des chrétiens de paix, de joie et d'unité, et d'être aussi capable de se pardonner. On éviterait bien de la bagarre, hein? Si on serait plus prêt à écraser l'orgueil, ça serait pas mal plus facile. Ça demande du front, ça demande du courage. Vous savez, devenir des disciples du Seigneur, c'est devenir aussi des gagneurs d'âme. Ce que je dis, l'amour, c'est de nous aimer, à nous respecter, à ne pas toujours avoir raison sur tout, d'être capable de mettre de l'eau dans son vin. De ne pas se laisser également influencer par les autres qui peuvent nous diviser. Je dirais, regarde qu'est-ce que la Bible enseigne. Il y a des sujets qu'on devrait souvent s'éloigner, qu'on tombe dans le panneau par les influences. Discerner les pensées qui sont bien dirigées par le Saint-Esprit. S'il n'y a pas de fruit dans ce que vous parlez, ben va ailleurs, perds pas ton temps. Évite-toi des problèmes. Allô? La sagesse est capable de dire, si cela, ça ne glorifie pas le Seigneur, je me retire de cela. Dieu est attentif à notre développement spirituel parce que c'est son amour qui a été mis dans votre vie. C'est l'amour de la croix. Jésus mort pour moi, pour vos péchés, mes péchés. Il a mis un amour divin dans notre vie. Et cet amour doit se refléter les uns sur les autres. Nos paroles, nos actions, nos habitudes, nos vieilles habitudes, notre nouvelle identité d'enfant de Dieu doit nous apprendre à devenir des gens de bénédiction et non des gens qu'on va s'irriter les uns les autres. Un gros mot que je viens de dire, mais c'est une grande réalité. Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'il existe des querelles. Par orgueil qu'il existe des querelles. Mais la sagesse, elle est avec ceux qui écoutent les conseils. Vous savez, Paul, dans ses 3 ans de désert, a passé du temps également à méditer sur la révélation qui a changé sa vie, pas en surface, en profondeur. Le psaume 119, verset 48, « Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Il est sorti de quoi d'intéressant, ça va peut-être vous faire rire un peu. Méditer, ça veut dire en réalité réfléchir profondément. Ou souvent, on est dans le calme, dans la concentration, on réfléchit, c'est profond, bonne réflexion. Il est important de s'arrêter et de chercher le conseil de Dieu. Proverbe 7, verset 4. « Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et j'appelle l'intelligence mon amie. » La sagesse, l'intelligence envers le Seigneur est de méditer sur la parole. Vous savez, quand une vache, on connaît tous les vaches, quand une vache va manger son foin, hein, elle va manger, elle va broyer sa nourriture, puis après ça, ça va descendre dans sa bédaine, hein, dans l'estomac. Et dans l'estomac, donc, sa nourriture va fermenter. Donc, elle va produire des acides gras et qui sont bons pour la vache, c'est source d'énergie avant de donner le lait. Et le système digestif de la vache est de faire remonter ce que la vache a mangé. Donc, la nourriture qu'elle a mangée va revenir se compacter en boule dans sa bouche. Celui qui permet de ruminer, de remâcher le foin. Ruminer veut dire, dans le sens figuré, réfléchir profondément et souvent de manière répétitive à un problème ou à une idée. Donc, si le Saint-Esprit vous a placé un mis un dépôt dans votre vie, ça va descendre dans votre esprit. Et quand le Saint-Esprit va te rappeler qu'est-ce qu'il t'a dit, là, ça va commencer à ruminer, à remâcher, à réfléchir profondément sur qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'a donné. Remâche! Reviens! Médite! Tu réfléchis, puis tu vas faire comme la vache. Tu vas ruminer. Bel exemple. La méditation. Donc, il faut réfléchir. Comprendre jusqu'à la révélation vienne dans notre vie. Et pendant les 3 ans de désert, pour Paul dans le désert, le Saint-Esprit a enseigné Paul. Et Paul, j'aime dire, a reçu la révélation pour développer la théologie de la doctrine biblique, parce que 3/4 de la doctrine vient de Paul. Paul a reçu des choses, si on prêche, parce que Paul l'a reçu avant nous. Il a rencontré Dieu dans l'intimité, dans le silence, à réfléchir sur la souveraineté, sur l'élection, sur la dépravation du péché, la divinité de Christ, le pouvoir miraculeux de la résurrection, sur le gouvernement de l'Église. Paul, 3 ans dans le désert, d'isolement, pour nous dire qu'il a étudié à la faculté de la théologie du désert d'Arabie. Si Paul a reçu les révélations, donc, c'est-à-dire que nous aussi, nous avons besoin de révélations. Tout est écrit, mais nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qui est écrit. C'était des années glorieuses. Même Paul veut dire, j'étais assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Deux derniers versets. Philippiens 3, verset 8, n'arrête tellement. Et quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de Dieu, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je regarde comme une perte à cause de l'excellence de Christ. On peut mieux comprendre le texte. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. On voit la vraie conversion. Est-ce qu'on suit mieux un matin? Les changements de vie, les changements d'orientation, les changements de mentalité, les changements d'attitude, les changements de comportement, tout cela se fait par la parole révélée. Il faut étudier, il faut sonder, il faut lire. C'est la parole qui vient nous changer par l'inspiration. Paul nous dit que sa vieille vie est morte. Paul dit « ma vieille vie de religion, de religieux, de pharisien ». C'est une perte, ça n'a pas de valeur, c'est comme des excréments, c'est comme de la boue, ça n'a pas de valeur comparativement à l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ. Moi, quand je lis ces textes-là, souvent je me dis, Seigneur, j'ai tellement de choses à comprendre, je veux marcher dans l'excellence de ta parole. Paul recherche le désir de découvrir son nouveau royaume. Tu ne trouveras pas son nouveau royaume sur Netflix. Tu ne trouveras pas son nouveau royaume avec les ramasses savants. Tu ne trouveras pas ces révélations-là quand tu ne passes jamais de temps avec le Seigneur, avec sa parole. Tu vas trouver ça avec un temps de culte avec Dieu. Et pas pour rien que Paul cite Colossiens 3, verset 1, 2, mes derniers versets. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » On a vu un homme transformé. Est-ce qu'on peut dire ce matin que Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit, recherche des gens qui sont prêts à se laisser former, transformer? Combien ils sont prêts à dire avec ça? Combien ils sont prêts à dire, « Seigneur, plus de ta parole, plus de ta révélation, plus de changement dans ma vie, plus de puissance et moins de moi. » Est-ce que c'est votre cœur ce matin de connaître la parole de Dieu? Alléluia! Je ne prêche pas ces genres de messages-là souvent, mais ça me fait du bien, ça me rappelle des bonnes choses. Nous avons besoin, en tant que peuple de Dieu, nous vivons les derniers temps. Nous sommes dans des temps difficiles. Il n'y a rien de jojo qu'on voit dans le monde. Gardez la parole dans votre cœur. Gardez-les, elle est votre guide. Mais si tu ne la lis pas, tu vas faire des bêtises. On la lit et on en fait des bêtises. Imagine-toi, si tu n'en lis pas, tu vas en faire encore plus de bêtises. On a besoin de s'arrêter ce matin et de réaliser qui nous servons. Qui est Jésus? Qui est le roi? Que fait Jésus dans ta vie? Pourquoi on a besoin de la parole? Alléluia! Elle est chemin, vérité. Alléluia! J'ai besoin de la vérité. Combien veulent dire avec moi ce matin? J'ai besoin de la vérité. J'ai besoin de la parole de Dieu. Dites avec moi, j'ai besoin que ma vie soit transformée à son image. Levons nos mains ce matin. Levons-nous. Je vais demander aux musiciens s'ils veulent s'approcher. Peut-être que tu es tellement éloigné de la parole de Dieu, du cœur de Dieu. Peut-être que ce matin, ce sera bon de dire, je veux replacer ma priorité dans la sainteté de Dieu avec la parole de Dieu. Et je veux marcher comme un homme, comme une femme de Dieu qui va refléter le royaume de Dieu. Combien sont prêts à dire avec moi, j'ai besoin de transformation? Combien sont prêts à dire avec moi, j'ai besoin de cette transformation? Alléluia! Je crois de tout cœur, la parole de Dieu, elle est là pour rester. Elle ne changera jamais. Elle sera toujours vivante pour chacun de nous. Ce matin, je vous exhorte, je vous encourage à avoir le nez dans votre Bible. Amen. Avoir le nez à la bonne place. Elle va être votre chemin. Elle va vous faire prospérer à tout égard. C'est qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Donc, pendant qu'on va faire le chant, peut-être dire, pasteur, moi j'ai besoin de prière un matin. Je veux revenir. Revenir au cœur de Dieu. Revenir à la parole de Dieu. C'est votre désir ce matin. On va prendre un temps, on est là, on va prier avec vous. Ceux qui veulent quitter, quittez-nous. Oh, pas de problème, mais ceux qui veulent de prière, venez, on va prier avec vous. Amen.